bienvenue dans le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazerolle, ostéopathe à Montréal, et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de sportifs, d'athlètes et de spécialistes de leur domaine. Pour mieux comprendre la mécanique du corps et de l'esprit, pour vous aider à être plus performant au quotidien, et surtout en meilleure santé.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Alors, Jérôme, ça c'est.
Jérôme, j'utilise. C'est le pseudo que tu as mis sur le.
C'est un pseudo d'une autre chose, d'un autre truc que je m'occupe à côté, qui n'a absolument rien à voir. Et j'ai juste oublié de le changer. Et il est par défaut sur un nom qui n'est pas le mien.
Mais
qui est pour un autre truc. Bon, voilà, je crois qu'on est, bon, on est lancé. Donc, Benoît Saint-Denis, avec qui je discute un petit peu déjà depuis quelques minutes. Bienvenue sur le podcast. Déjà, ça me fait plaisir.
Bah écoute, salut Jérôme, ça me fait plaisir à moi aussi. J'ai écouté quelques-unes de tes interventions avec les multiples intervenants que tu as fait venir sur tes podcasts. Moi, c'est surtout en version podcast parce que j'ai beaucoup de routes. Moi, je roule pas mal avec la petite Honda Civic. Donc du coup, je fonctionne surtout au podcast. Et c'est agréable et c'est sympa de voir des gens qui portent de l'intérêt pour le sport en général et surtout qui vont chercher du spécifique.
Ouais, et tu vois, c'est marrant parce que autant il y a un an à peu près, tout ce qui tournait autour du MMA, les sports de combat et tout ça, c'était pas quelque chose qui m'attirait particulièrement dans le sens, tu sais, de manière naturelle, tu vois, j'étais pas porté vers ce truc-là. Et là, de plus en plus. Alors, c'est peut-être parce que je découvre aussi ce milieu. Je découvre à travers, il y a eu les combats assez récents, enfin le combat assez récent entre Ngannou et Cyril Gane qui a fait énormément parler, donc je pense que ça a propulsé toute cette profession. Mais il y a une espèce de, voilà, il y a un entrain, il y a un truc, et t'es un de ceux qui m'avait été recommandé et en même temps que j'avais vu sur les réseaux, et alors ton combat, il était assez, le combat que t'avais fait était assez impressionnant, je trouve. Et donc, je trouve ça super d'échanger. Et super que t'aies accepté cette invitation assez facilement finalement. Tu sais, souvent on se dit ceux qui sont dans certains milieux qui ont une certaine notoriété ou qui commencent à grandir, tu sais, ça va pas être facile d'aller les rejoindre. Et pourtant, t'as un agent qui s'occupe de toi en plus, non?
Non, alors en fait, oui, je travaille avec ma femme. On se partage un peu la tâche parce que avant, j'y avais pas d'intérêt parce que j'avais pas des sollicitations comme je les ai aujourd'hui. Avec la signature à l'UFC, en fait, ça a fait couler beaucoup d'encre et ça a rajouté beaucoup de sollicitations que j'avais pas auparavant. Alors, pour me décharger un petit peu, j'ai la chance d'avoir ma femme Laura qui m'aide et qui intervient et qui me décharge un peu des multiples sollicitations à laquelle je peux faire face. Mais quand je suis loin d'un combat comme ça, en général, ça retombe un peu et j'ai un peu plus de temps à donner aux gens, donc j'en profite.
Bon, mais parfait, je suis tombé au bon moment, alors ça fait plaisir. On va parler un peu, parce que t'as un double truc, moi, qui m'impressionne totalement. Tu fais deux activités qui m'impressionnent, c'est peut-être celles que je trouve les plus incroyables. C'est tout ce qui est l'effort spécial et évidemment l'UFC. Et toi, t'es passé de l'un à l'autre, c'est assez dingue. On va essayer de parler un peu de ça, de cette transition. Je sais que t'en as déjà parlé et puis il y a déjà eu des articles, mais on va essayer de faire un peu, d'aller un peu plus loin. Et tout ce qui tourne autour aussi de ta prépa, parce que tu m'as dit que tu voyais un ostéo, tout ça, et un peu, j'ai vu que tu avais quelques capsules, des boîtes Nutrimuscle, il me semble, derrière toi. Donc,
ouais.
Y a tout ce truc préparation, santé, on fait attention à soi. Et c'est ce qui nous intéresse ici sur ce podcast. Mais avant tout ça, je vais te laisser te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui découvrent aujourd'hui.
Bah écoute, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Benoît Saint-Denis. Alias God of War pour le petit pseudo dans la cage. J'ai 26 ans, j'ai été dans les forces spéciales françaises pendant 5 ans, pendant un contrat de 5 ans. Donc j'ai fait quelques opérations extérieures, notamment toute la bande subsaharienne. Et à l'issue, en fait, premier contrat, j'ai pas renouvelé parce qu'en fait, je voulais tenter l'expérience professionnelle dans le MMA, qui m'est venue au fur et à mesure du temps. J'ai repris les sports de combat en 2017 avec le jiu-jitsu brésilien, et un an plus tard, en 2018, je commençais le pied-poing. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis orienté vers le MMA, qui aujourd'hui, comme tu le dis, a un engouement au niveau français fort, parce qu'il y a eu la légalisation en 2020, et avec le Covid, on ne l'a pas trop vu au début, mais petit à petit, ça a pris. Et puis en plus de ça, il y a quelques Français. Maintenant, on est 5-6 Français à être à l'UFC, donc, qui est l'organisation mondiale numéro 1. Donc tous ces petits facteurs ont poussé à une médiatisation plus forte des médias français en général, et ont propulsé un peu le MMA. Donc voilà, donc moi je pense qu'aujourd'hui je suis plus connu pour mon côté combattant de MMA professionnel français à l'UFC plutôt que le côté ancien force spéciale. Mais effectivement, j'ai été dans les forces spéciales avant de basculer dans le MMA, et avec une aventure assez rapide, puisque au bout de 2 ans et demi, j'ai signé à l'UFC et je me retrouve maintenant avec 3 ans de pratique à me diriger vers mon deuxième combat pour l'organisation l'Ultimate Fighting Championship. Voilà.
Quand est-ce qu'il aura lieu ce deuxième combat?
Alors, le combat, il aura sûrement lieu en mai. Je ne peux pas encore donner la date exacte et l'adversaire, parce que c'est encore du domaine de l'incertitude de ce niveau-là, mais fin avril, début mai, c'est sûr. C'est booké, j'aurai mon prochain combat à l'UFC. Et qui
Ok.
sera dans ma catégorie de poids d'ailleurs, parce que le dernier combat, j'avais pris un combat en short notice de 3 semaines dans la catégorie de poids supérieur. Donc là, je serai dans ma catégorie de poids, les 70 kilos.
On va revenir un petit peu peut-être sur ton combat après que tu as fait donc l'année dernière en fin 2021. Juste avant, pour revenir un peu sur ces efforts spéciaux, qu'est-ce qui t'a donné envie d'y rentrer? Il y a un mental de champion derrière, tu vois. Enfin, je veux dire, ça c'est évident, mais qu'est-ce qui te donne envie de rentrer dans les forces spéciales? Et Marine, c'est ça? C'était
Alors, ce n'est pas les
le
commandos
terme.
marines, c'est le premier PIMA, donc premier
Oui,
régiment
c'est vrai.
parachutiste d'infanterie de marine. Donc, effectivement, il y a le mot marine dedans, parce que c'est un régiment qui est dépendant de l'infanterie de marine. Donc, c'est un régiment qui est dépendant du COS. C'est le même taf que les commandos marines, d'ailleurs. Donc, tu avais eu Alex, French SAS, qui avait
Ouais.
fait une intervention
Exact, ouais.
sur ton podcast. Et qui a longuement expliqué ce que représentent les forces spéciales françaises. Mais moi, c'était le côté aventure. C'était l'aventure, le combat, servir mon pays. En fait, c'était un peu, il y avait un côté 3 en 1, le côté aventure humaine, combat, et le côté servir son pays. Les 3 en 1, ça m'a donné envie. Et je voulais les forces spéciales parce qu'en fait, concrètement, sur le terrain, c'est eux qui vont avoir les missions les plus prestigieuses, entre guillemets. Donc, tout ce qui va être libération d'otages, récupération de personnalités ennemies importantes, donc des personnalités ennemies de Daesh en général, ou d'Al-Qaïda, ou des multiples factions terroristes, qui est un peu le grand ennemi de l'Europe en ce moment. Et en général ces dernières années. Et voilà d'autres missions dans ce style-là, la destruction d'armements ennemis, voilà plein de missions, la protection de personnalités importantes. Il y a eu la protection, mon groupe a fait la protection de François Hollande quand il est venu au Mali.
Ouais, j'ai vu ça.
Donc voilà, plusieurs missions assez prestigieuses et assez, on va dire, sont assez satisfaisantes, même en tant que simple opérateur, et qui ont fait que je me suis intéressé aux forces spéciales. Je voulais faire partie un peu de cette aventure-là. Ça m'a beaucoup plu. Et après, de fil en aiguille, comme je disais, je me suis passionné par les sports de combat, pour les sports de combat, pardon, et rapidement, en fait, la passion a pris le dessus sur la raison, entre guillemets. Voilà, j'ai arrêté le métier d'opérateur SAS pour devenir combattant de MMA.
À plein temps, ouais. Et tu connais Teddy Palassi, peut-être?
Oui, je connais, oui.
J'ai enregistré un super épisode avec lui là qui sera sorti qui est pas encore sorti là actuellement parce que j'ai un petit peu d'avance, mais qui sera sorti quand le nôtre, cet épisode qu'on enregistre, sera sorti. Hyper intéressant parce que lui il était dans les commandos marines et c'est vrai que tu vois, je commence à bien comprendre un peu le système, comment ça fonctionne, et surtout tu sais, les espèces de motivations sous-jacentes à vouloir rentrer dans ce genre d'unité d'élite. Il y a une sorte d'ego, une sorte de revanche, de prouver quelque chose à un moment donné, d'être capable, ou tu sais, le sens du défi et du challenge qui est assez important. Parce qu'on sait que c'est hyper dur, tu vois. Il y a un truc, il y a un gros nuage autour de tout ça, qui est la difficulté des épreuves psychologiques, physiques. Comment toi tu l'as vécu? Est-ce que les épreuves ont été hyper difficiles? Est-ce que t'en as chié, quoi, tu vois, pour rentrer là-dedans?
Alors oui, Teddy, c'est un copain que je connais bien, qui d'ailleurs aide à préparer les jeunes et les moins jeunes aussi à rentrer dans tes unités d'élite. Et bah, effectivement, si tu l'as eu en intervenant, bah, tu as dû un peu comprendre que il y a des difficultés multiples, mais je dirais qu'il n'y a rien d'insurmontable, hein, dans les forces spéciales. Par contre, il faut être intelligent dans sa préparation. Il faut rien négliger, et il faut être sportif, faut être très motivé, et faut pas être bête, parce qu'il faut réussir les multiples épreuves. Il va falloir avoir une capacité d'assimilation aux différentes techniques qui vont être enseignées au fur et à mesure de la formation, assez rapide. Donc gérer une capacité d'adaptation correcte. Et un niveau sportif correct aussi, pour pouvoir passer les difficultés physiques sans trop en souffrir, parce que sinon on peut rapidement accumuler une charge de travail qui va vous diriger vers une blessure ou faire un échec à cause du physique, ou on peut avoir un échec parce qu'on s'adapte mal aux multiples tâches techniques. Donc je dirais une capacité d'adaptation et un niveau sportif correct, et surtout être très motivé, parce que c'est long en fait. On se rend pas compte, mais c'est long. C'est environ un an et demi de formation. Donc c'est relativement long. Donc il faut être motivé tout le long.
T'étais prêt toi physiquement? T'étais comment? T'étais affûté à l'époque? T'avais quoi, 18 ans tu m'as dit?
Non, moi j'étais très jeune. Moi j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire, dans le sens. Alors je suis arrivé blessé. Je devrais pas le dire, mais maintenant c'est derrière moi, mais j'ai quasiment plus de ligaments qui maintiennent ma cheville gauche, donc c'est quasiment que du muscle, parce que je me suis arraché beaucoup de ligaments, parce qu'en fait je suis arrivé, j'avais déjà une grosse blessure à la cheville, j'avais un arrachement d'un ligament et je me l'étais déjà cassé. Et en fait du coup, bah moi, ce qui a été le plus dur, ça a été la formation initiale, qui est en fait le truc le plus facile. Sauf que des petites marches de 20 km, même si on n'était pas lourdement chargé pendant la formation initiale, qui est une formation que tout soldat français fait, comme j'avais une grosse entorse à la cheville très douloureuse, en fait, ça a été dur pour moi physiquement les trois premiers mois. Et en fait, le corps, il s'adapte, hein. J'ai passé le cap de la douleur, et surtout j'ai eu les 2 semaines de permission après la formation initiale, où là j'ai tout mis en œuvre pour récupérer. Et comme en fait les dernières semaines de la formation initiale on faisait les sauts, et que moi j'avais déjà fait la PMPFS, la préparation militaire parachutiste, j'ai eu moins de volume de travail, de charge de travail, donc j'avais déjà récupéré 1 ou 2 semaines, mis à part les quelques sauts qu'il me fallait rajouter au carnet. Et en plus de ça, j'avais les 2 semaines de vacances, donc en un mois j'ai réussi à bien récupérer au niveau de la cheville et repartir, on va dire, à peu près correctement. Ça a été encore douloureux un peu, mais ça a eu tendance à se dissiper. Et on va dire qu'à mon 4e ou 5e mois de formation, où j'avais plus trop de douleurs à la cheville, ou léger, j'avais plus qu'une gêne, et là, ça a été mieux.
Donc en fait, moi, comment t'as fait? T'as fait de la kiné? T'as
vu des spécialistes? Alors, chiropracteur, kiné, ostéopathe. Ouais. Là, pendant 2 semaines, j'avais mis le tarif à la cheville, parce qu'il fallait que je récupère rapidement. C'était assez compliqué. surtout quand t'es pas sportif de haut niveau, t'as pas accès à des échographies rapides, à des mises en place tournées vers toi, vers la performance. Donc du coup, c'est plus compliqué. Il faut faire jouer les connexions de famille ou les connexions d'amis.
Ouais.
Et j'ai réussi à peu près me débrouiller et ça a bien marché. Et physiquement, j'étais pas trop mal parce que même si j'avais que 18 ans, j'avais à peu près cerné, étant donné que mon père est militaire, il m'avait à peu près expliqué ce qu'il fallait en termes de qualité athlétique, quoi. C'est-à-dire avoir quand même de l'endurance, se débrouiller en course à pied, savoir nager et avoir une bonne force en poids de corps, quoi. Savoir faire des pompes, de flexion des abdos. Moi, j'aimais bien la préparation. Voilà, et la préparation physique, j'aimais déjà bien à l'époque. Donc déjà, depuis l'âge de 17 ans, je m'entraînais bien. Mmh. Et donc ça s'est relativement bien passé.
Ok. Tu faisais quoi comme sport? T'étais un mec sportif avant de te lancer pour entrer dans les forces spéciales? De base, c'était quoi les sports que tu faisais?
Ouais, j'étais déjà sportif. Hein. La préparation physique de 16 ans à 18 ans. Et avant ça, j'avais fait 8 années de judo, mais en loisir. Un peu de rugby, un peu de foot. En fait, je faisais judo, foot, rugby. Hein, j'ai testé un peu les trois. Et aussi, avec ça, j'avais également la préparation physique que j'ai faite de 16 ans à 18 ans, enfin à 17 ans et demi jusqu'à mon incorporation.
Ok. Ça t'a servi alors le rugby, bon, je suis pas sûr, mais par exemple le judo, est-ce que ça t'a servi derrière en combat? T'as pu retrouver des vieux réflexes archaïques que tu avais acquis lorsque tu étais jeune sur des prises ou...
Ouais, c'est rigolo. Le judo m'a servi pour le rugby. Et le rugby m'a servi pour l'armée parce que au rugby, tu cours beaucoup et c'est des petits efforts fractionnés. Mais quand même, c'est long, c'est 80 minutes un match de rugby. Le judo, c'est plus court, c'est 6 minutes un combat de judo. Donc, c'est plus intense, mais beaucoup plus court. Les deux m'ont servi. Mais le judo, oui, m'a servi quand j'ai repris les sports de combat, notamment au sol. J'avais déjà des acquis, quoi. C'est-à-dire qu'en deux, trois semaines, j'ai eu ma ceinture bleue en très peu de temps, quoi, en une compétition. J'ai fait une compétition en ceinture blanche où j'ai arraché tout le monde parce qu'en fait, j'avais déjà un bon niveau en judo, on va dire, et que je m'étais passionné directement pour la discipline. Et je suis passé ceinture bleue. Mon coach m'a fait passer ceinture bleue rapidement et puis après, j'ai évolué. J'ai adoré ce sport, le jiu-jitsu brésilien. J'aime beaucoup ce sport. Et le judo m'a aidé pour devenir bon jiu-jitsu brésilien. Et en MMA, en général, sur certaines phases de lutte, ça m'a aidé aussi à prendre un peu plus rapidement la lutte. Après, ça reste du judo loisir, il n'y a pas d'attaque dans les jambes. Ça reste, tu tires, tu as l'habitude de traiter l'adversaire. Après, tu as par contre déjà des acquis, c'est-à-dire de difficultés. Les combats de 6 minutes, c'est très intense. Donc, tu sais déjà un peu ce que c'est, le coup un peu du sang dans la bouche, le fait de tracter pendant 6 minutes à fond, quoi, que tu peux retrouver dans le MMA. Si tu luttes contre la cage pendant 10 minutes à fond, tu vas retrouver les mêmes sensations.
Ok. Et ça, c'est un truc qui est pas mal redondant chez toi, hein. C'est cette capacité à vite gagner en compétences. Là, tu me dis que tu es passé de ceinture blanche à bleue vite. Tu as fait une transition force spéciale MMA assez vite. Ton premier combat, il est arrivé, je crois, extrêmement vite. Et tu es passé en quelques temps de presque inconnu, hein, d'un coup médiatisé, la future, peut-être future star ou en tout cas espoir français de l'UFC, quoi. Tu sens, toi, que tu es un mec qui avance rapidement comme ça quand tu démarres une activité?
Oui, quand je m'y passionne, oui. Parce qu'en fait, avec le temps, avec l'expérience, ma démarche dans une activité, quand je vais m'y intéresser, elle est aussi bien physique qu'intellectuelle. Et du coup, je pense que c'est des... Et puis aujourd'hui, il y a aussi un savoir-faire qui est facile d'accès grâce à Internet. Donc, toutes ces choses-là cumulées, ça fait que j'assimile assez bien et assez rapidement les choses.
Ok. Bon, c'est intéressant. Je t'ai dit que j'allais me fumer un petit cigare. Là, c'est la première fois que je fume un cigare pendant que j'enregistre un podcast. J'en profite, je suis à l'extérieur. Comme je t'ai dit, là, c'est mon dernier jour en France avant que je rentre à Montréal. Et comme c'est pas la même température, je me suis dit, tiens, je vais me mettre bien. Petit dédicace d'ailleurs à Julien Volant, je sais qu'il fume les cigares. Et puis Baptiste Marché, évidemment, connu pour sa chaîne Bench & Cigars. Je voulais savoir, tu te souviens des épreuves que tu as eues lorsque t'es rentré, enfin, c'est tout un, tu m'as dit, c'est une formation qui dure un moment, mais les épreuves les plus dures, les trucs qui t'ont marqué pour rentrer dans l'unité d'élite.
Je pense que le moment le plus dur, ça peut être le stage commando ou l'unité de recherche humaine,
Ouais.
qui est un module qui fait partie du CTE SAS, qui consiste à aller espionner l'ennemi, entre guillemets, loin dans ses lignes. Et en fait, il y a un sac à dos qui est très très lourd parce qu'il y a le matériel pour plusieurs journées, voire plusieurs
Ouais.
semaines. Et voilà, pour pouvoir construire sa cache. Et c'est très très rude physiquement. Et je pense que c'est peut-être le module le plus dur physiquement du CTE. Et sinon, le stage commando, en général, est un des moments assez difficiles, je pense, de la formation de la force spéciale.
Mais
Mais
quand tu dis que tu dois aller visiter les, enfin que tu dois espionner les ennemis, est-ce que c'est une vraie mise en condition ou alors c'est semblant? Et comment ça se passe? Je sais pas, c'est des
oui,
jumelles,
alors
tu dois
oui, voilà,
t'infiltrer, comment ça se passe?
c'est des exercices à échelle humaine, donc à l'aide de jumelles. En fait, tu vas t'infiltrer dans les lignes ennemies avec un sac à dos qui fait entre 40 à 60 kilos, donc qui est très lourd, et c'est ça qui est dur en fait, parce que tu as déjà la marche. Puis après, tu vas construire ce qu'on appelle une cache. Donc, c'est une cache, c'est un moyen de se dissimuler la journée. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un trou un gros trou dans lequel tu vas vivre et qui doit être de loin, tu ne dois pas pouvoir le voir. Donc, en fait, c'est un savoir-faire qu'on a acquis là-bas. Une cache, tu mets environ, si tu tapes cache 13e RDP, tu vas trouver ça sur Internet. Mais voilà, une cache, en gros, tu vas mettre environ plus d'une dizaine d'heures à la réaliser. Et c'est très dur parce que tu viens de faire une nuit complète, une nuit blanche de marche avec ton sac à dos très lourd. Et en fait, tu fais ta cache environ à 2 km de la zone que tu vas espionner pour pas qu'on t'entende quand tu la construises. Et en fait, la journée, tu dors dedans et la nuit, tu vas espionner l'ennemi, entre guillemets. Grosso modo, c'est à peu près ça, hein. Mais voilà, donc ça, c'est une phase qui est très dure. Et
Et
après,
c'est genre,
le.
c'est un trou que tu fais dans le sol et j'ai
Ouais, c'est un
pour être certain.
peu dans le sol et que tu recouvres. Et en fait, toi,
Ok.
tu vis dans le trou et tu as des petites sorties d'air, mais sauf que le trou est entièrement recouvert. En fait, tu le vois pas. À l'œil nu, tu vois pas, c'est recouvert de feuilles, tu crois que c'est la forêt, mais en fait, il y a deux mecs dedans, quoi. Donc, 2 à 4 mecs dedans, ou même plus. Et voilà, bon, après, c'est des détails dans lesquels je ne veux pas rentrer parce que après, ça devient des doctrines d'emploi, mais voilà,
Ouais.
c'est difficile. Et après, il y a le stage commando qui est difficile parce que le stage commando, c'est beaucoup d'activités physiques avec des petits modules comme le module Explo, des petits modules qui demandent quand même d'avoir les neurones qui fonctionnent bien et puis d'être actif intellectuellement malgré la fatigue. Et en fait, ça, c'est ça qui fait la difficulté du stage commando, c'est de garder une bonne capacité
Cognitive.
d'apprentissage et intellectuel malgré une forte fatigue. Et moi, j'ai beaucoup aimé le stage commando, j'ai bien aimé.
Ouais.
Mais il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'ai beaucoup aimé le stage commando, même le RH. Ce qui est dur, c'est les premiers jours, mais après, tu tombes un peu dedans. Et il y a un truc quand même qui est agréable. Même si c'est dur, il y a un truc qui est agréable. Alors, ce qui est chiant, c'est que comme ça conditionne ta réussite, à ton statut d'opérateur, il y a un côté très école que tu peux pas que tu dois respecter, qui prive pas un peu de plaisir, mais qui t'oblige à performer dans le stage commando. Mais c'est un truc que j'ai beaucoup aimé.
Quand tu dis que ça t'oblige à performer, c'est quoi? C'est la pression de
Non,
réussir
avoir
qui est difficile à gérer?
non, la notation, tu sais, avoir des bonnes
Ah, un
notations,
truc un peu académique, quoi.
voilà, il y a ce côté-là quand même dans tous les modules. Les gens ils voient pas, mais les stage co, les gens sont très différents avec l'encadrement et sans l'encadrement, donc ça c'est rigolo aussi. Et en fait, on voit vraiment le côté valeur humaine des individualités quoi, pendant le stage commando.
Ça veut dire que t'en as vu qui ont pas tenu ou disons que ils étaient un peu trop pour leur pomme ou.
Ouais, voilà. Alors ben, c'est normal. Hein. C'est comme c'est un moment qui est dur. Il y en a qui vont un peu se cacher quand il n'y a pas l'encadrement, essayer de se montrer quand l'encadrement est là. Ah. Il y en a qui vont avoir tout le temps le même caractère, donc ça c'est impeccable parce que bon, au moins mec joue franc jeu. Et puis il y en a inversement, ils sont très forts en groupe quand il n'y a pas l'encadrement. Et ils ne pensent pas à se mettre en valeur quand l'encadrement est là, donc ils n'ont pas forcément la place qu'ils méritent. Donc voilà, il y a un petit peu de tout.
Comment t'étais, toi ?
Moi,
comment tu penses que...
Bon, je pense que j'étais plutôt nature, moi. ni dans l'un côté, ni dans l'autre. Il y avait des mecs très humbles qui ont ce côté-là. Ils ne pensent pas à faire le petit plus quand il y a l'encadrement, mais ils sont top en groupe. Et inversement, il y avait aussi les mecs qui se montraient à fond quand tu as l'encadrement et qui vont un peu se cacher, entre guillemets, quand il y a le groupe. Moi, je pense que j'étais plutôt dans le côté nature, c'est-à-dire que je comprenais qu'il fallait faire un peu le cinéma quand il y a l'encadrement, mais que la valeur du groupe et ce que tu faisais dans le groupe, c'était essentiel, ça faisait partie de l'aventure de ton stage. Ça conditionnait aussi comment tu vivais ton stage. Donc, c'est important, c'était important d'être présent.
Cette façon-là de mettre un peu de processus académique en autant, en ayant quelque chose de scolaire, est-ce que tu penses que ça, maintenant que tu es sorti et que tu as eu des missions, tu penses que c'est une bonne chose ? Ou disons, ça fait sortir des mecs qui arrivent à réfléchir par eux-mêmes, ou ça fait quand même sortir des mecs qui sont très très conditionnés à faire ce qu'on leur demande et à rester dans les carcans ?
Honnêtement, il y a les deux. Ça dépend des individualités. Je pense qu'en tant que simple opérateur, il y a la place pour les deux. Il y a des mecs qui sont restés opérateurs, qui n'ont pas trop bougé en grade, hein, qui ont fini leur carrière capot à chef, mais qui étaient des super opérateurs. C'est-à-dire que le peu de spécialité qu'ils avaient, ils le faisaient bien, mais ils préféraient écouter les ordres et être à l'écoute et s'exécuter. Ils préféraient être exécutants que faire partie de l'exécutif, entre guillemets.
Que l'idée.
Et que guider, voilà, que commander. Et inversement, il y a des profils qui ont besoin rapidement d'avoir des responsabilités, du commandement. Moi, je pense que des responsabilités individuelles, c'est très important d'en avoir rapidement parce que ça te fait exister au sein d'un groupe et ça prouve que tu as de la confiance et ça conditionne, je pense, la réussite d'une bonne entente dans un groupe. Après voilà, comme je te dis, il y a de tout, mais il faut de tout aussi parce qu'il faut aussi des gars qui puissent monter au fur et à mesure, parce que la grande majorité des gars commencent en bas et finissent, enfin pas la majorité, mais ceux qui commandent le groupe, un sur deux vient du rang presque, enfin du rang ou des sous-officiers. Donc c'est important qu'il y ait aussi des gars qui montent petit à petit, parce que faut qu'à l'échelle, faut que ceux qui commandent aient aussi de l'expérience de terrain. Parce que c'est une spécialité en fait qui est tellement dure que acquérir en un an un savoir-faire correct ou en deux ans, comme c'est proposé par exemple pour les officiers directs, c'est très compliqué. Alors il y a des officiers qui sont très très forts, donc qui arrivent assez rapidement, mais ça reste quand même dur pour eux parce qu'ils n'ont pas un temps de dédication à la spécialité générale d'un opérateur que peut avoir l'opérateur qui commence en bas et qui finit chef de groupe.
Ok, je vois. Et toi, t'as été, tu t'es senti leader direct ou tu faisais partie de quel camp ? Plutôt celui qui aime bien suivre ou celui qui aime bien prendre des décisions et commander le groupe ?
Non, les deux.
Ou le diriger ?
Moi, j'aimais bien faire les deux. Comme j'ai fait une carrière très courte, les seuls moments où j'ai pu commander, c'était pendant les stages, comme le stage commando, et j'ai aimé faire les deux. Honnêtement, j'aimais bien prendre le lead et j'aimais bien aussi rester à ma place, mais j'aimais bien, quand j'avais ma place, avoir une spécialité quand même et un rôle bien précis, bien défini. Ce qui était un peu, moi, ce que j'aimais pas, par contre, c'était suivre sans avoir de but précis ou de rôle précis. Ça, par contre, c'était quelque chose que j'aimais pas trop, quoi. Moi, il me fallait un lead dans quelque chose ou une responsabilité, ouais, pour vraiment me sentir bien.
Ok. La mission qui t'a le plus marqué, t'as été en Afrique, hein, si je me trompe pas. Enfin, au Mali, tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais ton groupe qui avait aidé à sécuriser le président à l'époque, qui était François Hollande, c'est ça ?
Ouais,
c'est ça qui
ouais,
ça t'a le plus marqué ?
Oui, alors le mandat sur la bande subsaharienne, c'était le mandat le plus proche de ce qui se fait actuellement et puis de un peu du côté aventure, combat que tu recherches quand tu t'engages, parce que tu combats réellement le terrorisme, t'es prépositionné dans un pays à risque. Il y a régulièrement des blessés, malheureusement. T'es vraiment dans une ambiance là de réalité. Hein.
Mmh. Et, ouais, c'est pas Call of Duty, quoi. C'est...
Non, là,
comme je discutais de ça avec Teddy, c'est qu'il y a un grand. C'est quand t'es sur le truc, c'est pas la même.
Non, c'est
pas la même limonade. Quoi.
Et là, ouais. Là, t'es vraiment dans la réalité. Tu fais partie de la lutte antiterrorisme mise en place par la France. Et là, tu as vraiment un rôle que tu sens qui porte et qui a un intérêt.
Ouais. Tu te sens fier ? Genre, sur le moment, c'est vraiment un truc.
Tu peux avoir des moments de fierté parce que tu accomplis bien des missions ou parce que tu réalises correctement ton travail, bien sûr. Bah, comme tout travail, je pense, hein, quand tu fais bien ton travail, je pense que tu as des moments de fierté, hein, peu importe le travail que tu fais, hein, que tu sois, infirmier ou peu importe le métier. Je pense que dans tous les métiers, il y a des moments de fierté si à partir du moment où tu réalises bien ton travail.
Et tu vois, Teddy Palassi, avec qui je discutais, me disait aussi, c'est ça, c'est que la réalité, elle est tout autre que ce qu'on imagine et que c'est dangereux et qu'il peut t'arriver des couilles et que, alors lui, il n'avait pas eu l'occasion de partir dans une guerre et qu'il ne s'en sentait pas plus mal que ça. Parce qu'il y a toujours cette idée de, c'est un peu le but quand on est là-dedans, mais quand on voit certains qui sont tombés au combat, tu te dis, c'est pas grave. Parce que c'est hyper dangereux. Et que c'était d'ailleurs la réalité du terrain était beaucoup plus dure que les épreuves auxquelles tu fais face pendant ta formation. Et qu'il n'y avait rien de plus dur finalement que lorsque tu étais en mission, quoi, tu vois. Même si tu n'étais pas dans une guerre, que tu étais en vraie mission. T'as pas
ouais.
Ça toi aussi ?
En fait, oui. Fort heureusement, c'est pas une guerre continue. Il n'y a pas tous les jours des mecs qui se tirent dessus côté français au Mali. Alors des fois, ça pète un peu plus qu'à d'autres moments parce que la situation géopolitique de cette zone est assez instable. De plus, le terrorisme, il est plus ou moins actif en fonction de divers facteurs. Est-ce que c'est Ramadan par Ramadan ? Est-ce que à ce moment-là, politiquement, le pays est faible et ils sentent qu'ils peuvent jouer un coup d'État. Il y a plein de facteurs qui font qu'une situation elle peut être plus ou moins dure sur le théâtre en réel. Et tout le monde ne vit pas forcément une épreuve de feu. Il y en a qui ne se font pas tirer dessus de toute leur carrière. Il y en a qui se font tirer dessus. C'est comme la carrière d'un policier, hein. Tous les policiers ne se sont pas fait tirer dessus.
Ça t'est arrivé, toi ?
Alors, oui, ça m'est arrivé, oui, d'entendre siffler, oui. Ça m'est arrivé. Mais y a plein de situations. Hein. Ça peut arriver aussi bêtement. Tu peux te faire tirer dessus par des copains, des présumés copains. Il y a plein de situations. Oui, comme tu dis, en fait, c'est un pays à risque, c'est un pays où il y a la guerre, donc c'est dangereux. Hein. Un exemple, moi, je me rappelle, c'est que le groupe s'était fait tirer dessus en rentrant d'une mission banale par des forces alliées parce qu'ils pensaient ils ont le stress de l'ennemi et puis ils n'ont pas forcément le niveau de formation et le niveau d'éducation auquel peut avoir accès un force spécial de l'armée française. Donc voilà, l'Afrique, oui, c'est dangereux, ça peut être dangereux. C'est politiquement, géopolitiquement beaucoup moins stable que la France. Donc tu es confronté à des choses plus violentes et le rapport à la vie et à la mort n'est pas du tout le même qu'en France. Même il suffit d'aller au Brésil ou dans des pays déjà un peu plus pauvres pour voir ça. Hein. La France, on est assez bien préservé de tout ça. Et donc oui, un combattant, un soldat français, il peut. Toutes les carrières sont différentes. Moi, j'ai un copain. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui ont autant cartonné que lui. Et inversement, j'en connais qui n'ont pas tiré un coup de feu, qui ne se sont jamais fait tirer dessus. Il y a tout, en fait. Ça dépend aussi un peu. C'est entre guillemets un peu le destin ou au petit bonheur la chance. Hein. Faut être au bon moment, à tel instant pour faire partie de cette aventure. Et comme tu dis, il faut pas non plus aller la chasser parce que c'est là que je pense que tu te mets ta vie en danger. En fait, tu t'entraînes pour ça. Si ça arrive, il faut faire ton métier. Mais aller chercher la petite bête, entre guillemets, pour être sur le premier plan, je pense qu'il n'y a aucun intérêt. Avec l'expérience, je pense que ça, tous les soldats te le diront, je pense.
Ouais, c'est clair. C'est que faire le malin coûte très cher, quoi.
Ouais, comme te disait Teddy, il y a pas de... Tu vas pas aller chercher la petite bête, entre guillemets.
Ouais, le bâton pour te faire battre, si on peut dire. Mais et c'est intéressant ce que tu dis sur la vision. Enfin, intéressant, c'est... Sur la différente vision entre la vie et la mort dans ces pays, l'Afrique ou même le Brésil, tu vois. Je suis obligé de penser aussi à ce qui se passe en ce moment de manière un peu plus globale sur l'histoire du vaccin, l'histoire du virus. Je ne sais pas s'il faut le nommer pour pas se faire virer de YouTube. Donc le virus, le vaccin, tout ça. Et surtout la capacité à soigner ceux qui sont en détresse. Tu le vois, sur les systèmes sont complètement différents. En France, ce truc n'existe pas. Par exemple, en France ou même tu vois au Québec en l'occurrence, c'est que tout le monde va être soigné à la même. Tu fais pas de choix, il y a pas de priorité, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que tu sois vacciné, pas vacciné, lorsque tu vas à l'hôpital, on va pas te dire tiens toi t'es pas vacciné donc je te soigne pas. Tu vois, on essaie de mettre tout le monde sous la même règle, et donc on a peut-être perdu cet effet du. Je dis pas que c'est une mauvaise chose ou une bonne ou une mauvaise chose. Chacun y mettra son avis là-dessus, mais on a peut-être oublié ou perdu, tu sais, le vrai sens de la santé, la vie, la mort, tout ça. Quand tu vas au Brésil, j'y suis pas allé, mais j'ai entendu beaucoup, j'ai un pote qui est en ce moment, ou même dans les pays d'Amérique latine, quand t'es pas vacciné, t'es pas prioritaire, et en fait, ils te laissent mourir sur le trottoir. Alors, c'est pas un discours où je dis il faut que tout le monde se fasse vacciner, je n'en ai aucune idée, j'ai pas le retour nécessaire. Mais tu vois que c'est pas la même vision, et quand on se retrouve peut-être en Afrique, où pour le coup, ces considérations-là, elles existent pas du tout. Vacciner, pas vacciner, je sais même pas si peut-être qu'ils ont des vaccins ou pas, j'en sais rien. Je pense que ça amène aussi à réfléchir sur se repositionner, tu vois, sur les droits, les devoirs, qu'est-ce qu'on est censé faire, sur quoi on est censé être redevable. Je sais pas si ça te parle, ce que je te dis. Sans rentrer dans le débat, parce que je sais que.
Je pense tout simplement que. C'est une crise qui est très particulière parce que comme c'est pas non plus quelque chose qui est c'est un virus qui tue, mais qui est comme il tue entre guillemets avec parcimonie, je pense un peu que malheureusement le côté du capitalisme actuel entre guillemets, hein, moi j'aime ce modèle, hein, moi j'aime le capitalisme et c'est comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui, mais malheureusement le mauvais côté c'est que avec un modèle capitaliste, tu mets pas tout en œuvre pour traiter le plus efficacement, je pense, le problème. Tu mets tout en œuvre pour le traiter de manière à perdre le moins d'argent possible ou à en gagner le plus possible.
Voilà, à soutenir le système, bien sûr. Ouais.
Voilà, et ce qui est le système dans lequel on vit depuis des dizaines d'années. Hein. Moi, j'en suis pas. Je trouve qu'on vit mieux. Je pense que les gens il y a un siècle, entre guillemets, dans certains aspects. Et donc voilà, c'est très compliqué de se positionner hein, sur la crise de Covid, mais oui, effectivement, en Afrique, le Covid, c'est pas trop pris en compte là-bas. Hein. Il y a d'autres problèmes plus graves hein, là-bas que le Covid. Déjà, c'est pas une démocratie. On est sur un système politique qui est très très loin de la démocratie, avec des élections à 95 ou 99%. Donc, il y a des problèmes plus graves que le Covid là-bas. Ouais, qui font que je pense que ils ont et même comme tu dis là-bas, il y a une mortalité qui est beaucoup plus forte, qui fait que le regard vis-à-vis de la vie et de la mort est très différent d'une autre. Nous, des fois, tu peux avoir un enfant qui va pas affronter le deuil avant d'avoir 10-15 ans pour sa première grand-mère ou son premier grand-père. Bon, là-bas, je pense qu'à 10-15 ans, le gamin, il a déjà au moins 5 ou 6 décédés dans la famille, un peu à droite à gauche.
Et pas des décès naturels, quoi, on s'entend.
Il peut avoir deux ou trois décès naturels parce que la maladie est maltraitée ou parce que déjà là-bas, je sais pas, peut-être qu'à 70 ans, tu meurs. Et puis, parce que tu as travaillé comme un fou, un peu comme Francis Ngannou faisait là dans les mines, à taper de la pierre. Donc, la mort, l'espérance de vie est beaucoup plus faible. Et puis, en plus de ça, oui, il y a les accidents, il n'y a pas de code de la route là-bas. Hein. Je peux dire qu'au niveau des accidents de la route, ça y va. T'as plein de choses, quoi. T'as plein de manières de mourir en Afrique. Un scorpion qui te pique, une morsure de serpent. Il y a des moyens de mourir beaucoup plus nombreux qu'en France. Il y a le terrorisme aussi. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Les coups d'État. Et puis, tu peux te retrouver même dans des situations extrêmes comme il y a eu au Rwanda. Il y a 20 ans, avec un génocide carrément. Donc là, on est encore sur du plus-plus. Donc, oui, il y a encore beaucoup, beaucoup de moyens de mourir rapidement là-bas. Et donc, du coup, leur rapport à la vie et à la mort est beaucoup plus...
Est différent. T'es resté combien de temps ?
Moi, j'ai fait environ 6 mois là-bas.
Ouais, au bout de ces 6 mois, tu reviens changer ou y a beaucoup de choses qui changent dans ta tête ou finalement tu reviens dans la vraie vie entre guillemets et puis on oublie assez vite tout ça. C'est le cerveau se protège ou il garde et il imprime bien.
Je pense que comme on a la chance quand t'es force spéciale d'avoir des rôles définis d'avoir en fait une acculturation à l'ensemble des opérations et au milieu en général qui est assez importante, qui fait que tu te poses, je pense, beaucoup moins de questions qu'un GI aux États-Unis. Par exemple, les Américains, ils ont beaucoup de problèmes de PTSD. Et il y en a aussi en France, hein, il y en a beaucoup. Mais aux États-Unis,
traumatisme post-traumatique.
Donc, le côté, tu disais, tu reviens changer. Je pense qu'aux États-Unis, avec des missions de un an, quand tu es un peu bouche-trou, donc c'est-à-dire qu'on ne te dit rien, tu fais ça, tu fais ci, tu obéis, et puis tu tombes sur une embuscade, tu as des mecs qui se font tuer, et tu es un peu dans l'incompréhension de la situation, en fait. Nous, on avait la chance d'avoir une culture de la situation géopolitique du pays à l'instant. Okay. Une culture de beaucoup de choses, beaucoup de connaissances qui font que
tu te sens pas abandonné, quoi.
Voilà, et tu sais pourquoi tu combats, en fait. Donc c'est beaucoup plus simple de savoir pourquoi quand tu sais pourquoi tu combats, c'est plus facile d'accepter, je pense, la blessure. Et une blessure, qu'elle soit psychologique ou physique. Et d'ailleurs, des blessures physiques, il y en a régulièrement au régiment. Il y en a régulièrement au régiment et donc ça fait partie des risques de mission.
C'est toi quand tu es là-bas, ta mission ou ton rôle principal, c'est quoi que tu fais au jour le jour en fait, parce que c'est difficile à s'imaginer pour quelqu'un qui est pas soldat, qui a pas été dans l'armée, de à quoi ressemble un peu de la vie de tous les jours. Est-ce que c'est tous les jours t'entends fuser des balles ou alors c'est tous les jours tu dors d'un seul œil parce que tu te dis à tout moment on peut rentrer dans là où on dort et se faire tirer dessus. Et tous les jours, c'est quoi? C'est se déplacer? C'est rester à un endroit?
Alors effectivement, il y a des camps un peu partout, comme je te disais, sur toute la bande subsaharienne. Il y a des camps français ou des camps OTAN dans lesquels tu vas être prépositionné. Et après, tu as différents moyens de mise en place, que ce soit la voiture, l'hélico, la chute libre pour pouvoir intervenir. Et faire éventuellement une libération d'otages, faire une capture d'une personnalité importante de Daesh ou de Al-Qaïda ou d'Al-Furqan ou d'une des branches de l'État islamique et du terrorisme islamique en général.
T'as fait ça?
Oui, ça on faisait. Alors, pas de libération d'otages, hein. J'ai pas eu cette chance. Enfin, cette chance, c'est des missions qui sont très difficiles. Donc, chance, oui ou non, mais bon, c'est en tout cas, c'est une des missions les plus prestigieuses, entre guillemets, on va dire, où t'es, le savoir-faire que tu acquis en tant qu'opérateur, c'est là qu'il est le plus mis en valeur et exploité. Mais,
et puis, tu sauves des vies directement, là, je veux dire, là, on est vraiment sur. L'ennemi
oui,
est capturé.
C'est vachement concret. Oui, effectivement, c'est vachement concret. Mais c'est très difficile. Et après, tu as aussi les missions, comme je disais, de destruction de matériel ennemi, capture d'ennemis. Tout ça, c'est des missions qui ont lieu depuis des bases qui sont un peu partout sur la bande subsaharienne et qui permettent d'être prépositionnés. Voilà. Je me répète un peu, hein, mais c'est...
Non, mais c'est tu vois, de toute façon, moi, je connais pas du tout ce truc-là. Alors, de plus en plus, parce que, tu vois, je me renseigne un peu et je discute et tout, et je trouve ça à la fois fou... fou, quoi, tu vois. Et c'est marrant parce que désarmer ou désactiver un truc ennemi, c'est, je peux pas m'empêcher d'avoir, parce que moi, c'est la seule référence que j'ai quand j'étais plus jeune d'avoir joué à ces jeux vidéo, tu vois, de trucs où tu fais une mission et t'appuies sur un bouton et c'est actif, alors qu'en réalité, tu sais très bien que ça se passe pas du tout comme ça. C'est, tu rentres pas dans la maison, tu fais deux, trois étranglements et t'appuies sur un bouton et vous avez gagné votre mission, quoi. J'imagine que ça doit être un petit peu plus compliqué.
Non, c'est beaucoup plus. Alors, c'est pas forcément plus compliqué, mais c'est beaucoup plus proche du réel. Là, c'est vraiment le côté cinématique, quoi. C'est-à-dire qu'une destruction d'armement, ça peut être l'ennemi, tu sais, qu'il a enterré du matériel à tel endroit, parce que tu as vu, je sais rien, grâce à des drones, le pick-up s'arrêter là et enterrer des trucs, tu y vas, tu déterres les armes, tu les détruis, et puis tu as détruit les armes ennemies. Ça peut être un truc ultra basique comme ça.
D'accord.
Comme ça peut être choper un pick-up avec des mecs à l'intérieur et il s'avère que dans ce pick-up ils avaient énormément de matos et donc tu le récupères et tu le détruis, quoi. Donc la deuxième version que je t'ai mis, elle est plus violente parce que éventuellement les mecs vont riposter et bon, en général s'ils ont du matériel ils vont riposter avec ce qu'ils ont et donc là tu ressens, ça ressemble un peu plus à du Call of Duty, mais c'est on est très très loin de la version cinématique que tu peux avoir dans les jeux vidéo, très 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 loin. Et c'est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus simple. Et c'est plus simple, mais ça demande des moyens de mise en place beaucoup plus considérables que ce que tu peux voir dans les jeux vidéo.
Et t'es déjà dans le combat là, je veux dire, tu sais, t'avais fait du judo, donc t'as une certaine approche du combat, des arts martiaux. Mais quand t'es dans une situation là que tu viens de me décrire, admettons, t'es un véhicule ennemi, ils sont, je sais pas, 3-4 dedans, ils ont des armes, donc vous interceptez. Tu te dis déjà de 1, tu te dis s'il y en a un qui me tire dessus, peut-être que c'est la dernière fois. Je sais pas si t'y penses, à mon avis, t'y penses pas, peut-être sur le moment. Et puis si tu dois intervenir au corps à corps, tu sais déjà, t'as déjà confiance en ta capacité à te défendre et à neutraliser l'ennemi physiquement.
Alors pareil, c'est un truc qui est très très jeu vidéo. Le corps à corps, quand t'es force spéciale, il est presque inexistant. Pourquoi ? Parce que si un mec te tire dessus avec une Kalachnikov, tu vas pas essayer de l'attraper en général. Tu vas riposter avec quelque chose qui s'en rapproche drôlement. Une version peut-être un peu plus occidentale, mais tu vas riposter avec une arme à feu parce que concrètement, tu n'arriveras jamais à attraper un mec qui a une calache qui te tire dessus. C'est le premier truc qui est très cinématique. Par contre, ça peut arriver de quand le mec se rend, de le conditionner, donc un peu comme le font la police sur le territoire national, c'est-à-dire d'arrêter quelqu'un.
Vos papiers, s'il vous plaît.
De lui passer entre guillemets les menottes, mais c'est dans d'autres cas, c'est on s'entrave rarement avec du matériel lourd comme ça. Ça peut arriver, mais on va utiliser quelque chose pour pouvoir emprisonner la mouvance de l'ennemi capturé, et puis après rentrer au camp pour qu'il soit remis aux autorités qui prendront des choix de ce qu'ils veulent faire, étant donné que quand tu es sur un pays souverain, c'est lui qui décide de ce qui va advenir du capturé, étant donné qu'il fait partie de leur pays. Alors voilà, c'est encore un truc complexe, mais bref, il y a... Non, je pense que tu penses à rien. Voilà, la situation dont tu parlais, tu penses à rien, tu penses à faire ton travail. T'es dedans, hein, t'es dans l'adrénaline, t'es dans le côté un peu comme quand tu combats. Hein. Le mieux dans un combat, moi, les meilleures sensations que j'ai eues, c'est quand t'es un peu dans un espèce de mode de flow, tu réfléchis à rien, tu travailles les automatismes que t'as mis en place à l'entraînement. Et de temps en temps, t'as un petit éclair, une petite pensée, ah, tiens, je vais rajouter ça, ça. Mais t'es dans un mode presque automatique, quoi.
C'est pendant cette période, c'est quand, au niveau de la chrono, c'est un peu après ou c'est pendant cette période que tu commences sincèrement à t'intéresser au MMA? Parce que jusque-là, c'était pas le cas. Hein. T'avais fait un peu de judo, t'avais fait quelques sports, peut-être un peu de self-défense. Mais il y a une bascule qui se fait à un moment donné sur vraiment le MMA. Donc, qui est le...
Ouais, bah, grosso modo, vers cette période-là, hein, enfin, ouais. 2016, 2017, je commence le jiu-jitsu brésilien, 2018, le pied-point. Donc c'est dans les deux dernières années de mon contrat avec l'armée, donc 2 ans avant de renouveler, en fait, enfin un an en fait ça, quand je dis que ça a été rapide, ça a été vraiment rapide, parce que 1 an avant qu'on me propose de renouveler mon contrat, c'est là que j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien, et il m'a fallu 1 an de pratique pour réaliser en fait que j'allais pas reconduire et que j'allais tenter l'aventure dans ma nouvelle passion. Et voilà, et après, du coup, j'ai pris cette décision assez rapidement.
Comment ça se passe financièrement, par exemple, enfin, financièrement, sans forcément donner des chiffres ou rentrer trop dans le détail, mais lorsque tu veux faire cette bascule, que tu te dis je vais arrêter, je vais me lancer à fond dans le MMA, t'es pas encore à l'UFC, tu rêves d'arriver à l'UFC, c'est peut-être ton but, mais comment tu vas faire financièrement? Parce qu'il y a des sponsors, logistiquement parlant. Tu passes d'un truc à quelque chose ou avec une incertitude absolue où il y a pas de hiérarchie, il y a pas tous ces trucs, quoi, tu vois.
Alors ouais, le côté financier, ça a été un petit peu le
le bordel.
Ouais, alors en fait, bon, déjà à cette période, j'étais pas marié, j'étais célibataire, j'avais rien de
ça demande pas, moins d'argent,
pas,
hein,
que, ouais, pas que le mariage. Alors, je dis pas que le mariage c'est une entrave, mais quand tu es marié, tu te sens à avoir quelques responsabilités, ce qui est normal. Parce que moi, c'est comme ça que je vois, entre guillemets, la vie de famille, de mariage. C'est un peu, là-dessus, je suis un peu, entre guillemets, à l'ancienne, mais il faut que tu sois là pour ta famille. Voilà, quand tu es célibataire, que tu n'as rien à perdre, ça ne me dérangeait pas d'arrêter un métier qui me payait 2000 euros par mois pour être payé.
Tu trouves que c'est beaucoup, d'ailleurs?
Non, par ailleurs, d'ailleurs, c'est assez peu, hein, parce que dans les autres forces spéciales, moi, j'ai côtoyé les forces spéciales australiennes. Leur salaire, il était d'environ 7000 euros net pour le même travail, parce que ils sont payés en fonction des spécialités et du savoir-faire. Et nous, on n'est pas payé au savoir-faire, mais on est payé au grade. C'est-à-dire que tu sois un caporal chef force spéciale ou cuisinier, tu seras payé pareil. Donc, alors, je dénigre pas le cuisinier, je dis toujours ça, mais clairement, le nombre de stages et de spécialités que tu as dû et de temps que tu as dû consacrer à la formation est bien supérieur pour le force spécial que le cuisinier. Donc, normalement, on devrait être un peu plus rentable. Mais non, ce n'est pas le cas. Tu es payé au grade et au statut et non, au savoir-faire. Donc, du coup, ça, c'est pas, d'ailleurs, c'est pas, voilà, c'est pas non plus incroyable. Et donc, oui, donc, je suis passé de ça à 2 mois de préparation pour 400 euros pour mon premier combat professionnel, même si c'était moins que ça, je crois que c'était 370 euros. Donc,
attends, parce que comment ça se passe parce que quand tu dis pro, c'est que
deux. Même, j'avais quand même un chômage. Donc, c'est ouais. Le chômage. En fait, c'est le fait de me dire que j'ai 2 ans de chômage qui m'a permis de me diriger en fait, vers une carrière professionnelle, parce que je me suis dit, bon, voilà, j'ai 2 ans pour percer et arriver à faire du combat mon revenu, et voilà, bah, j'ai réussi à faire ça, et je continue à l'améliorer en ce moment, mais ça m'a permis de, j'ai réussi à atteindre cet objectif, et il me fallait pas moins de temps, voilà, les 2 ans de chômage, ils ont été les bienvenus parce que à la fin, c'était compliqué. Et même les 6 premiers mois hors chômage en signe à l'USC, c'était dur. Parce que quand tu n'as plus de chômage et que tu n'as plus de revenus financiers, c'est dur. Mais bon, la signature à l'USC, ça a arrangé pas mal de choses, du sponsoring. Voilà, j'ai eu SI Group, qui est une entreprise de sécurité incendie et de formation qui m'a généreusement sponsorisé financièrement. J'ai Chiron Solutions, j'ai Nutrimuscle que tu as vu derrière, donc les compléments alimentaires qui me donnent un coup de main. J'ai Iron Mill, voilà, j'ai plein de choses qui se sont mises en place. Et voilà, et j'ai la chance d'avoir une bonne.
C'est sponsors, partenariats qui te permettent de financer la préparation, enfin ta vie de tous les jours, peut-être la classique, hein, les factures, tout ça que tu dois payer, la vie de t'es marié, donc on va dire les dépenses quotidiennes et plus peut-être les préparations, les déplacements, tout ça. Ça, c'est tes sponsors qui le prennent en charge et qui te permettent d'être à fond dans tes entraînements, ta planification, la stratégie sur les prochains combats, etc.
Alors, c'est beaucoup plus brut que ça. C'est plus du sponsoring financier et c'est moi qui prends en charge tout ça. Parce qu'en fait, voilà, le MMA, c'est encore, il y a encore un grand flou artistique autour du MMA en France. Donc, en général, je dis de quoi j'ai besoin, mais c'est pas suivi comme le tennis en France où effectivement, là, tu as le sponsor qui va suivre l'athlète voilà, j'ai Xacov aussi qui me suit, qui me soutient. Enfin, c'est plus un sponsoring financier direct qui permet, en fait, c'est moi qui après gère les fonds avec ma femme pour m'organiser, pour mettre tout ça en place. Mais oui, grosso modo, ça ressemble à ce que tu viens de dire.
Mais alors, c'est ça, c'est que pour être combattant à l'UFC, finalement, faut être une entreprise, quoi. C'est ça, c'est que t'as des revenus d'un peu partout, des sponsors de ceci, et puis c'est toi qui organises, ou c'est toi qui gères tout, comme si t'étais, comme si Benoît Saint-Denis était une société et qu'il fallait, gérer un peu.
Fait. Ouais, c'est exactement ça. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai le statut d'auto-entrepreneur, en fait. Hein. Donc, oui, je suis auto-entrepreneur.
et là, avec le combat à l'UFC là, qui t'a propulsé forcément, ça t'a propulsé, quoi, tu vois, je veux dire, sur le devant de la scène, est-ce que tu as senti plus d'attention de la part des médias, de la part des gens, comme si tu étais rentré un peu dans la cour des grands et comme si en même temps, ça y est, ce sport est en train vraiment d'exploser ou alors peut-être que je me trompe et effectivement, c'est encore très underground.
Alors, c'est vrai que ce combat, comme il était très impressionnant, c'était un combat qui était très sanglant et que les gens, ça leur a plu. Ça m'a donné beaucoup de force sur les réseaux. Malheureusement, il est allé de l'autre côté. Donc, la décision, elle a été pour mon adversaire, logiquement, parce qu'il a fait un très bon deuxième round, qui fait d'ailleurs le côté un peu spectaculaire du combat. Hein. C'est il y a 2 minutes où je prends la foudre, clairement.
Tous ceux qui l'ont pas vu, il y a des moments, des highlights qu'on peut retrouver sur YouTube. C'est impressionnant. Je vais peut-être te poser toi toutes questions après parce que je trouve ça incroyable.
En fait, on a eu 2 rounds vraiment compétitifs, le premier et le troisième, et il a réussi à prendre le combat parce que dans le deuxième round, c'est moi qui me suis précipité en fait. J'ai fait la bêtise de vouloir finir le combat plus vite que prévu. Parce que j'avais l'habitude de finir mes combats, de finir tous mes adversaires. Et donc, j'ai trop mis la marche avant. Et sauf que contre un mec comme ça, c'est lui avec l'expérience. Il m'a contré plusieurs fois et j'ai réinsisté. Je me suis refait contrer et après, il a accéléré. Donc, il y a eu 2 minutes de déluge de coups. Et après, le troisième round est de nouveau redevenu plus compétitif. Mais voilà, le deuxième round a été dur. Et oui, bah, ce combat spectaculaire m'a, entre guillemets, propulsé. Mais c'est là qu'on voit que le combat, c'est vraiment un truc qui est particulier parce que tu peux avoir beaucoup de soutien, mais il y a aussi beaucoup de. Il y a de tout dans les combats. En majorité, j'ai eu beaucoup de soutien, mais il y a aussi beaucoup de haters, entre guillemets, des gens qui sont. C'est ça que moi j'aime bien dans ce boulot quand même, c'est que tu perdes ou que tu gagnes, tu rends des gens heureux parce que tu as les gens qui veulent que tu perdes. Et t'as les gens qui veulent que tu gagnes, et dans tous les cas, tu vas faire des heureux le soir où tu combats.
Ouais. Bon, enfin, ça fait quand même chier de rendre content ceux qui voulaient te voir perdre.
Ouais,
pour le coup,
bon,
là, tu dis putain, c'est pas eux que je voulais rendre.
C'est un peu le jeu dans les sports de combat. D'ailleurs, il y a beaucoup de combattants qui jouent aujourd'hui le rôle des méchants des fois. Ils sont un peu et ils ont une grosse liesse populaire. Hein, ceux qui jouent les méchants. Que tout le monde veut voir perdre et donc que tout le monde veut voir combattre. Si tu veux le voir perdre, c'est que tu veux le voir combattre. Et donc, du coup, il y en a qui en jouent. Voilà, il y a un peu tous les profils. Et puis, des fois, il y a les mecs, c'est un peu le profil super-héros. Tout le monde veut qu'il gagne, alors tout le monde va avoir son combat. Un peu à la Anthony Joshua contre Ushik. Ushik, c'était un peu le super-vilain. Alors, ça ne s'est pas trop vu, mais c'était un peu ça dans la mentalité des gens. Le méchant ukrainien contre le gentil anglais. Et c'est le méchant qui a gagné ce coup-là. Et voilà,
ça fait très Rocky, hein, Rocky 2 ou 3, je ne sais plus.
Les gens aiment ça. Hein, et ils ont vendu un peu le même principe pour le Cyril Ngannou. Hein.
Ouais.
Ngannou, ils ont vendu un peu le méchant gars et l'autre le gentil. Alors qu'en vrai, il n'y a pas de méchant, pas de gentil. Hein, c'est juste qu'il y en a un qui s'est exilé aux États-Unis. Et donc, du coup, il ne s'entraînait plus en France. Donc, ils ont joué sur cette rivalité-là, mais
vrai,
voilà,
hein.
ça fait venir du monde et ça donne envie aux gens. Et oui, l'UFC, oui, effectivement, ça m'a monté dans une autre dimension et vraiment, ça me permet aujourd'hui de. C'est pas encore du confort parce qu'il faut, va falloir que je consolide ma position à l'UFC, donc que je ramène des victoires. Et je travaille pour ça, je travaille dur pour ça, mais effectivement, c'est une des rares orgas qui permettent d'en vivre à temps plein.
Ouais,
mais les gens se font beaucoup d'idées. Hein, parce qu'en fait, quand tu touches par exemple 50 000 dollars à l'UFC, ce qui n'a pas été mon cas, hein, mais sur les 50 000, déjà, tu as 20% qui partent pour le manager. Si tu as combattu aux États-Unis, les États-Unis taxent 30% directement, donc il te reste 25 000 dollars dans le compte en banque. Sur ces 25 000 dollars, tu fais la conversion en euros et tu restes 22 000 euros ou 21 000 euros. Donc, tu reviens en France avec 21 000 euros si tu as combattu aux États-Unis, par exemple. Hein. C'est un exemple. Mais voilà, donc les gens, des fois, ils sont là. Pareil pour le million. Tu gagnes 1 million d'euros aux États-Unis. Aux États-Unis, tu taxes 30% dès le deuxième combat là-bas. Donc, en fait, sur tes 1 million, déjà, tu enlèves 300 000. Si t'as 20% pour les coachs, le manager et tout, tu reviens et il te reste 500 000. Après, la France, je sais pas comment ça se passe. Sur une somme comme ça, tu dois être quand même un peu imposé. Enfin, bref, une carrière, elle est courte, hein. La combattante de MMA, c'est 15, 20 ans. C'est comme un rugbyman. Donc c'est plus court. Enfin, comme un footballeur ou un rugbyman, d'ailleurs. C'est assez court. Et puis c'est pas contrairement au rugbyman ou au footballeur, tu touches pas tous les mois un chèque intéressant qui fait que peu importe ton palmarès sportif, si t'as été dans un grand club au rugby ou en foot, à la fin de ta carrière normalement t'es à l'abri. Hein. T'as joué, j'en sais rien. Au rugby c'est peut-être un peu moins vrai, mais je pense qu'aujourd'hui quand même tu joues par exemple à Clermont-Ferrand ou à Toulouse pendant 10 ans, 20 ans. Tu dois toucher 10-15 000 balles par mois et je pense qu'à la fin, tu n'es pas trop mal. C'était un bon joueur. Hein. En foot, n'en parlons même pas du foot. Hein. Le foot, ouais. C'est la même chose, mais dès la Ligue 2. Quoi. Dès avant la Ligue 2. Quoi. Donc,
c'est ce que ça génère derrière hein, en termes d'audimat.
Bien sûr. Bien sûr. Et nous, par contre, nous, là-dessus, par contre, c'est pas mal enflé. C'est que l'audimat du MMA… on devrait toucher bien plus d'argent parce qu'en fait, on touche que 11% des revenus nets de l'UFC. Et en boxe, par exemple, c'est 50% pour les boxeurs. Sauf qu'une soirée boxe, tu n'as que 2 ou 3 combats. Donc, ils sont 2 ou 3 à récupérer plusieurs millions de dollars. Nous, des fois, il y a 15 combats. Donc, ça fait 30 combattants. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des primes au début de seulement 10 000 dollars. Parce qu'en fait, tu te retrouves avec que 11% divisé par 30 combattants. Donc, et ce n'est même pas les pay-per-views, c'est-à-dire que tu ne touches pas un pourcentage sur les… Enfin bref, et ça, il y a d'ailleurs, ça en fait beaucoup parler sur les réseaux. Il y a Ngannou d'ailleurs qui est un peu le porte-drapeau indirectement de la lutte contre ça. Moi, je suis ultra satisfait hein, d'être à l'UFC, et je m'en plains pas du tout pour le moment, mais… effectivement, c'est un truc qui va être amené, je pense, dans le futur à changer un peu les pourcentages de bourse.
Alors pour ceux qui savent pas, bon, peut-être je pense que 98% des auditeurs savent de quoi on parle, mais l'UFC, c'est l'organisation la plus pro, la plus connue, peut-être la plus complète, qui organise des combats de mixed martial arts, donc qui sont des combats toutes disciplines confondues. C'est ça, hein, c'est l'organisation la plus grosse, l'UFC.
En fait, oui, c'est l'organisation numéro une. Elle pèse 6 milliards de dollars. Elle a été rachetée à 4 milliards de dollars, je crois, dans les années 2010-2015. Aujourd'hui, elle pèse 6 milliards de dollars. Ça organise 3 à 4 fois par mois des événements, donc quasiment toute l'année. On va dire 3 fois par mois. Et oui, c'est l'organisation numéro une. C'est un peu l'équivalent de la Ligue 1 en France en foot, quoi. Mais pour le MMA. Donc,
tout le monde veut rentrer là-dedans. Tout le monde, je veux dire, tout combattant, c'est un peu comme... D'ailleurs, tu vois, regarde, il y a peut-être une analogie, c'est avec la NBA. Tout basketteur se rêverait d'aller jouer aux États-Unis, de rentrer dans la NBA, comme tout combattant de MMA aimerait... Parce que c'est que le UFC, c'est que le MMA, on est d'accord, hein, il n'y a pas de kickboxing, il n'y a pas de...
Ouais, ouais.
C'est juste ça. Et ça fait rêver beaucoup de monde, forcément. Comment t'y rentres? Et surtout aussi vite, avec, entre guillemets, hein, si peu d'expérience, parce que c'est allé très vite. Il te faut un bon manager qui te fait rentrer dans le truc. Comment ça se passe? Il y a forcément des auditeurs là qui nous écoutent et qui font du MMA et qui aimeraient rentrer à l'UFC plus tard. C'est quoi le mode d'emploi?
Moi, ce qui m'a permis de rentrer à l'UFC, c'est de gagner, tout simplement. C'est que la première année, j'ai fait 6 combats en 11 mois. La deuxième année, en fait, ça paraît peu, mais en Muay Thai, les mecs combattent environ une fois par mois. C'est pour ça qu'ils finissent leur carrière à plus de 200 combats, des fois.
C'est beaucoup, une fois par mois, putain.
C'est beaucoup, c'est énorme. En boxe anglaise, on est sur une quarantaine de combats par carrière. Et en MMA, il y a beaucoup de carrières qui se finissent à 25, 30 combats maximum. C'est-à-dire qu'en MMA, c'est un ou deux combats par an, en général.
Ça, c'est quand même dû aussi à la violence, hein, on est d'accord?
Alors, non. Non, c'est dû au peu d'organisation. De MMA, en fait. C'est beaucoup moins organisé que des combats de boxe ou des combats de Muay Thai. C'est pas encore aussi bien ancré. Et puis, même quand tu es à l'UFC, là, moi, si je recombat avril ou mai, ça fera 7 mois que j'aurais pas combattu. Donc, je vais sûrement combattre 2 fois cette année ou 3 fois cette année, j'espère. Voilà, il faut gagner. Il faut gagner. Au début, tu peux enchaîner les combats parce que t'es signé dans aucune organisation, tu n'as pas d'exclusivité, c'est-à-dire que tu n'as aucune organisation qui a un contrat avec des droits sur toi exclusifs. À l'UFC, c'est le cas. Donc, au début, tu peux enchaîner, aller à droite, à gauche et aller combattre le plus possible. Et après, si possible, gagner avec la manière, c'est-à-dire avant la limite. Moi, ce qui m'a permis de signer rapidement, je pense que c'est d'avoir eu 8 victoires et aucune défaite et puis 8 victoires avant la limite. Une par KO et 7 par soumission. Et en fait, tomber sur un adversaire que personne n'a voulu affronter ce mois-là, il y a 2 mecs qui l'ont refusé. Et du
pourquoi
coup, ils se sont dit, il faut qu'on trouve un remplaçant.
Tu sais pourquoi on n'a pas voulu? Parce que c'est ça, j'ai compris que tu t'es missé au bon moment.
Ouais, parce qu'il était très fort. Parce que c'est un mec qui ne paye pas de mine, qui est très fort. Hein, il tape super fort pour donner un ordre d'idée. Il a KO'té un mec qui est numéro 5 maintenant dans la catégorie des 84 kilos, qui s'appelle Sunstrikeland, alors que Sunstrikeland, en 77, il perd par décision contre Kamaru Usman et Panzini Bio, et sinon, il ne fait que gagner. Le seul mec qui finit, c'est ce mec-là, c'est Eliseu. Donc, c'était un adversaire qui était très, très fort. Et il n'y a pas un profil très intéressant médiatiquement, donc je pense que c'est ça qui m'a permis de rentrer, tout simplement.
Ok, et toi, tu t'es pas dit, il est trop fort, je vais passer mon tour.
Parce qu'un Français, quand il veut rentrer à l'UFC, il faut qu'il prenne des risques, sinon il ne rentre jamais, en fait. Surtout dans mes catégories de poids. En fait, dans ma catégorie de poids, encore, tu es à 84, 93 ou poids lourd, ça va parce qu'ils sont beaucoup moins nombreux. Mais les 78, 77, 66, c'est des catégories qui sont pleines de chez pleines. Il y a des mecs tous les jours, il y a des mecs qui envoient des dossiers pour essayer de rentrer. Et nous, en fait, on commençait à être dans leur petit papier depuis que j'étais à 7-0, pardon, quand j'avais battu Luan Santiago, qui est un adversaire qui était bien classé sur Fightmatrix, qui est un site qui référence le classement mondial des combattants en fonction de leurs résultats. Et donc, du coup, j'ai battu ce mec-là qui était bien classé et ça leur a un peu donné envie. Et après, j'ai re-eu une victoire avant la limite. Et là, ils se sont dit, bon, c'est bon, on le prend. Enfin, en tout cas, on le garde dans nos papiers en tant que remplaçant éventuellement. Et là, j'ai eu beaucoup de chance. Deux mecs qui refusent ce gars. Et voilà, ils me proposent et le gars accepte et c'est parti, quoi.
Ok. Ouais, non, mais tout ça se fait petit à petit. Et les combats que tu fais, donc les 9, 8 ou 9, tu m'as dit, combats que tu fais avant.
En fait, j'ai 10 combats parce que j'ai eu
10
victoires avant la limite. J'ai un no contest. Donc, c'est un combat qui a été, on peut dire, annulé parce qu'en fait, au troisième round, je prends un coup de tête qui m'ouvre. Et
le
coup de tête, comme il est illégal, il met fin au combat parce qu'en fait, le médecin dit que l'ouverture est trop profonde, donc il ne veut pas reprendre le combat. Et comme c'est un coup illégal qui met fin au combat, mais non intentionnel, parce qu'il n'avait pas fait exprès, en fait, le coup se fait accrocher, il tombe un peu sur moi, mais il met un coup de tête sans faire exprès. Et du coup, bah, ils ont annulé enfin, on appelle ça nos contests. Ça arrive aussi, par exemple, quand le mec te met sans faire exprès un coup aux couilles, enfin, c'est le cas de le dire, ou un coup au parti, sans. Si c'est le premier qui te met, si c'est le deuxième, il peut être disqualifié, mais si c'est le premier qui te met et que ça met fin au combat, parce que par exemple, vraiment, tu n'arrives pas à reprendre en moins de 5 minutes le combat, pareil, ça va être déclaré un no contest ou un doigt dans l'œil. Ça arrive souvent. Le doigt dans l'œil qui va tellement profond que tu ne peux plus voir. Moi, ça m'est arrivé à mon dernier combat, j'ai pris les deux. J'ai eu un coup au parti génital et un doigt dans l'œil. Et le pire, c'est le doigt dans l'œil. Hein. Enfin, je pense que si tu prends le coup au parti génital plus fort, c'est encore pire. Mais
t'as une coquille quand même, hein.
Ouais, il y a une coquille, bien sûr. Sinon,
parce que sinon t'es castré, quoi.
Bah oui, sinon je pense que c'est difficile de reprendre le combat après un coup parti. Mais le doigt dans l'œil, c'est vraiment chiant parce que ta vision est trouble, floue. Des fois, tu vois rien.
Ouais, ça pleure, j'imagine. C'est...
Ouais, c'est pas une bonne sensation.
Okay.
Donc voilà, enfin bref, il y a un autre contest et du coup, bah, maintenant c'est défaite à la décision, donc 10 combats maintenant, avec le combat contre le Brésilien, 10 combats.
Ok, donc tu fais tous ces combats qui ne sont pas à l'UFC, qui sont pour le coup, c'est quoi, c'est une organisation en dessous
Alors en fait, les quatre premiers combats, comme je te disais, j'ai combattu dans des organisations mineures, c'est-à-dire des petites organisations qui organisent une ou deux fois par an des événements et qui ne te signent pas vraiment de contrat, ils te signent un contrat pour un combat. Et j'ai gagné 4 fois. Du coup, j'ai intéressé une organisation majeure qui fait partie du top 10 mondial qui s'appelle le Brave Combat Federation, qui m'a permis de briller, que je remercie parce que c'est eux qui m'ont permis après d'avoir fait mon ascension vers l'UFC. Le Brave, en fait, c'est la plus grosse organisation du Moyen-Orient. Mmh. Et donc, j'ai enchaîné les victoires là-bas. Et là, le niveau d'adversité augmente forcément parce qu'on est sur des bourses plus importantes, des combattants plus prestigieux. C'est un peu un tremplin pour l'UFC. Et donc, du coup, bah, j'ai gagné là-bas 4 fois ou 5 fois et 4 fois. Et après, j'ai basculé à l'UFC.
OK. Et à partir du moment où tu es pris à l'UFC, enfin, tu es pris, c'est que tu te dis, vas-y, moi, je fonce, j'ai l'opportunité, je vais combattre contre je sais plus son nom, mais ce combattant. Il se passe combien de temps et est-ce que ta préparation physique change, ou disons que, parce que là tout d'un coup ça devient hyper sérieux, ça va être filmé, enfin bon, peut-être que c'était filmé avant, mais il y a vraiment, c'est l'UFC, c'est ton premier combat, ça va être grandement médiatisé, donc il se passe combien de temps
Non, alors ça avait déjà changé pour le Brave, parce que le Brave c'est déjà ultra médiatisé, si tu regarderas, en fait c'est peu connu du très grand public, mais le Brave, les gens du MMA connaissent tous, c'est-à-dire que c'est un peu comme si j'avais signé dans un club de Ligue 2, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne suit pas le foot, il s'en fout des clubs de Ligue 2. Il ne regarde que Paris Saint-Germain et quelques gros clubs. Voilà, bah moi idem, hein, je ne suis pas trop le foot. Mais par contre, un fan de foot, il sait qu'il connaît les bons clubs de Ligue 2 aussi et il regarde des fois de temps en temps les résultats. Donc, c'était déjà un gros step où je me suis vachement professionnalisé, où mes préparations se sont améliorées. Et j'avais déjà Daniel Warin, donc mon head coach. Donc, mon équipe, c'est Daniel Warin, Christophe Savoca. J'ai eu à l'époque Yoann Jacquemin, Christophe Cordier, Mathieu Leto, Jory Contagnac. J'ai Moustapha Seloum. Pour te signer tout le monde, Thomas Loubersan. Voilà, donc j'ai une grosse équipe. Là, j'ai mis Michael Cachignon en kiné. Donc, j'ai vraiment une équipe qui est complète et qui s'occupe Fabien Berenguel en préparation physique avec Anthony Glaise qui est un kiné qui travaille avec lui et En fait, voilà, bah, au fur et à mesure, je me suis professionnalisé. Donc, c'est-à-dire, j'ai rajouté un coach en lutte, un coach en sol, un kiné, un ostéo, etc., etc., etc. Cyprien qui s'occupe de moi en tant qu'ostéopathe. Et donc, au fur et à mesure, bah, tu te professionnalises, quoi, parce que ton emploi du temps, il est de plus en plus chargé. Et puis, il est propre, il est bien ordonné et tu as le temps de t'entraîner dans chaque discipline et avec l'intensité qu'il faut. Gérer les jours de récupération, les étirements, voilà. Il y a plein de choses à
Ouais,
faire dans
gérer,
ton
ouais.
professionnalisation.
Mais où c'est que t'es le plus à l'aise, toi, et celui, le domaine où t'as le plus travaillé entre lutte et boxe,
Moi, je suis un
pour justement
combattant.
arriver à ce combat?
Moi, je suis un combattant qui suis plutôt complet. Là, j'ai affronté un très très bon striker, c'est-à-dire combattant pied-point qui était très très réputé, donc il met beaucoup de KO. Je crois qu'il a presque. Mais deux combats sur trois, il met un KO, donc très 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 fort. Et en fait, voilà, bah, je me suis préparé comme j'ai pu parce que j'avais que 3 semaines. On m'a prévenu 3 semaines avant. Donc, bah, je me suis concentré sur moi. J'ai repris ce que je savais faire. Et on l'a vu, hein, au premier round, j'ai fait ce que je savais faire. Si j'avais fait 3 rounds comme le premier, bah, ça serait peut-être mieux passé. Malheureusement, je me suis un peu emballé, ça c'est le manque d'expérience. Au deuxième, j'ai voulu un peu accélérer et ça va, voilà, je me suis fait contrer. Et au
Quand tu dis
troisième,
que
je suis revenu.
tu as voulu accélérer, c'est-à-dire que tu as essayé d'être plus offensif et du
Ouais,
coup.
plus offensif en anglaise. J'ai fait 3 ou 4 combinaisons d'anglaise d'affilée et je me fais toucher à la troisième et j'y retourne direct. Je me refais toucher à la quatrième et c'est là que je perds un tout petit peu les appuis et c'est là qu'il accélère. Là. On le voit, on le revoit à la vidéo. Parce qu'en fait, j'ai voulu trop le. Je pensais l'avoir touché vite fait et j'ai trop accéléré au lieu de prendre mon temps. Et lui, il a bien fait, il a vraiment pris son temps et que quand j'étais vraiment touché, il accélérait. Donc, voilà.
C'est vrai que les coups sont impressionnants parce qu'en plus c'est des gants qui sont, c'est pas des gants de boxe anglaise, donc c'est des gants quand tu prends un coup, s'il est à peu près placé, ça fait saigner, donc on le voit, c'est ça qui est assez impressionnant dans le combat, c'est qu'il y a y a du sang, ça fait assez. Ceux qui aiment pas le MMA du tout, qui trouvent ça trop violent, par exemple, il faudrait pas leur montrer, je pense, ce combat parce qu'ils diraient, ça lui conforterait dans l'idée que c'est hyper violent. Comment, parce que je sais qu'il y a eu un gros débat aussi sur l'arbitre qui arrête pas le combat. Encore une fois, moi je suis novice et j'ai regardé un petit peu ce qui se passait, ce qui se disait, et ce qui s'est clairement ressorti, c'est que il aurait dû largement arrêter le combat, mais qu'il a laissé poursuivre, on ne sait pas pourquoi, et que le risque c'est la santé après derrière, tu vois. Et j'ai même eu un commentaire qui a dit: Bravo monsieur l'arbitre, vous avez fait perdre X années
Ouais, alors moi ça je trouve ça
à l'athlète, ouais.
complètement con parce qu'en fait si tu regardes le combat sans les commentaires américains qui sont folles dingo, en fait tu vois que je suis toujours là. Il n'y a aucun moment donné où je fais l'ascenseur, par exemple, où je m'écroule.
T'es pas tombé, hein?
Non, je suis jamais tombé, je fais toujours une action, j'essaie toujours de répliquer. Oui, je suis touché, mais c'est la Ligue des Champions, hein, donc t'es pas là par hasard et à l'entraînement on prend peu de coups. Donc, tu peux risquer de mettre ta santé en jeu. Merde, t'es combattant de MMA, t'es pas danseuse. Hein. Donc, à un moment donné, t'acceptes de prendre ces risques-là. Et moi, je sais que j'ai toujours la capacité de revenir parce que j'ai un super sol. Donc, je savais que je pouvais le soumettre. D'ailleurs, le peu de moments qui se sont passés au sol, rapidement, il s'est dit, ah non, en fait, je vais pas du tout y aller. Il est retourné debout. Je savais que j'avais l'opportunité éventuellement de finir le combat, même au troisième ou au deuxième. À un moment donné, à la fin du deuxième, je le touche aussi, je le touche fort, à la toute fin. Je l'arrête en pleine, dans sa course, un peu effrénée pour me chaoter, je l'arrête. Donc, oui, ça paraît violent, mais justement, ma capacité à encaisser, elle est bonne parce qu'en fait, à l'entraînement, on s'entraîne proprement et on ne prend pas trop de coups. Ce qui est dangereux, c'est de. Moi, je vois des fois des KO à la salle tous les week-ends dans des salles amateurs où les mecs, il n'y a rien en jeu, il n'y a pas un dollar en jeu. Et les mecs, ils se ruinent la santé. Ça, c'est nocif. Par contre, mettre ta santé en jeu quand tu combats 2 fois par an et que tu risques ton avenir professionnel, oui, et là, ça vaut le coup parce que tu acceptes de prendre ces risques-là. Et c'est juste que c'est choquant parce que les gens ont pas l'habitude de ça en France. Ils ont pas, il n'y a pas une culture du pied-point comme il peut enfin il n'y a pas une culture des sports de percussion, c'est plus le judo en France qui était médiatisé.
Teddy
Donc
Riner, forcément.
voilà, exactement. Donc c'est pas Par contre, oui, l'arbitre, là où il a un peu merdé, c'est le coup au parti et le coup à l'œil. Normalement, tu as 5 minutes pour récupérer. Et clairement, il m'a fait reprendre tout de suite alors que je lui disais que je voyais rien. Et effectivement, j'ai rien vu pendant 1 minute 30. Donc, la fin du combat, je voyais que d'un œil. Et ça, c'est pas normal.
Tu peux
Normalement,
pas
il doit
dire, toi, tu peux pas, je dis peut-être une connerie, mais lever la main par exemple ou t'adresser à l'arbitre et lui dire, attends, tu peux me laisser, just let me two more
Ouais,
minutes,
si,
please.
mais tu sais, t'es en plein dedans. Tu lui, tu
Ouais,
vois,
ça va vite.
tu lui signales, t'es en plein dedans, mais lui, il fait, vous reprenez, il fait la gestuelle pour reprendre, tu vois l'autre qui commence à avancer sur toi. Bon, bah voilà, tu sais qu'il faut y aller, quoi. Donc, c'est particulier. Ça dépend, ça, c'est un peu l'instant et le moment T, hein. Donc voilà. D'ailleurs, juste Jérôme, pour te prévenir, il me reste très peu de temps là de batterie. Donc, je sais pas où on en est, mais.
Est-ce que bah écoute, est-ce que t'as moyen de brancher le téléphone ou pas là, pas loin? Si jamais.
Ouais, si tu veux, je
En vrai,
vais me
ouais.
prendre.
Regardez l'heure qui est.
On doit être pas mal là en termes de temps là déjà.
Ouais,
Hein?
je problème, c'est que j'ai pas le compteur, donc je vois pas où c'est qu'on en est. Je vois juste l'heure, mais je sais plus à quelle heure on est marré. Ouais, non, mais on va bientôt conclure. Hein. C'est impressionnant tout ça. Moi, ça me fascine. Je pourrais rester longtemps, tu vois. Mais on va peut-être finir sur juste ça, un peu les projets, quoi, tu vois, parce que t'as fait ce premier combat-là. Juste avant, quand même, question que je m'étais notée et que je voulais absolument te poser, parce que on sait pas tous les jours qu'on a l'occasion de le demander. Quand t'es sur ce moment-là et que t'es un petit peu touché comme tu l'as dit et que tu prends des coups et que t'es pas KO, il se passe quoi dans la tête? Est-ce que tu te dis à quoi tu penses? À quoi tu penses quand t'es dans une arène comme ça, enfin une arène, il y a du monde et que
Bah,
c'est un peu désarçonné.
t'es concentré sur toi-même, hein. Moi, j'étais concentré sur moi. Je voulais pas que l'arbitre arrête le combat, donc il fallait quand même que je sois actif. C'est-à-dire que dès que je prenais trop de coups d'affilée, j'essayais de rétorquer avec une combinaison qui touchait rarement parce que j'avais pas encore récupéré mes jambes. C'est-à-dire que j'étais pas sonné, mais la seule partie moteur qui était un peu touchée parce que le coup à la tempe avait fait ça, c'était l'équilibre. C'est-à-dire qu'au niveau des jambes, j'avais pas des appuis très stables. C'est pour ça que je tapais mal pendant 2 minutes. J'étais pas efficace. Donc il fallait que je rétorque, mais sans être efficace. Donc c'était un peu compliqué. Donc j'essayais de ralentir le combat, de le coller, de frapper un peu. Par contre, quand les jambes sont revenues, c'est là que je lui mets un beau crochet droit qui le touche d'ailleurs, et c'est là c'est à son tour d'être touché pendant quelques secondes. Et donc là, ça remet le combat à zéro à ce moment-là, quoi. Donc c'est-à-dire que c'est là que ça redevient un combat serré. C'est à partir de ce moment-là.
Ça va vite,
Et
hein. Ça peut rebasculer
exactement,
vite.
ça va très vite. Mais par contre, pendant 2 minutes, il a eu une énorme domination qui lui ont fait basculer le combat dans son côté parce qu'il a pris le round 18, c'est-à-dire qu'il a marqué 10 points et moi 8 seulement à ce round-là, voire 17 pour certains juges peut-être. Donc du coup, bah, ça m'a fait perdre le combat.
Le jour d'après, 2 jours plus tard, t'as des stigmates, enfin des stigmates ou t'sais, des coups comme ça. Est-ce qu'il te reste des trucs T'as été ouvert, je
Ouais,
sais
ouais.
pas.
Bah,
Ouais,
moi,
quand même,
j'avais le
c'est.
nez cassé, hein. Il m'a cassé le nez sur un coup de genou au
Ah ouais.
deuxième round. Donc j'avais le nez cassé. Il a fallu me remettre le nez en place. Oui,
Putain.
oui, ah oui, j'avais des gros stigmates, ouais. J'avais une bonne tête de bonbonne. Mais lui aussi, hein, donc ça va. Mais bon, moi, j'avais le nez en plus qui était cassé et j'étais quand même plus marqué que lui, hein. J'étais bien marqué. Après, voilà, bah,
Ouais,
ça
bah
fait
bien
partie
sûr.
du MMA. Et bon, bah, comme tu me demandais la suite, moi, la suite, c'est un combat sûrement début mai ou fin avril dans ma catégorie de poids. Là, le but, c'est tout
De
arracher
cartonner là.
voilà, pour aller chercher
Ouais.
une victoire là-bas.
Bah écoute, on va espérer, non, on va soutenir cet épisode-là, il sortira normalement, je pense, courant mars, je pense, 2022. Donc mars, avril, mai, voilà, il y aura 2 mois. Donc j'espère que les gens vont t'écrire, vont t'envoyer des messages, vont te soutenir, forcément. Parce que ça doit aussi, tu sais, se sentir soutenu, avoir des gens derrière. Ça doit filer une rage, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas, mais j'imagine, les sportifs, tout ça, on imagine
Ouais,
toujours quand
bien
ils sont
sûr.
soutenus
Non,
dans le stade.
le soutien, c'est important. Hein. Se sentir soutenu, c'est important pour un combattant.
Ok.
C'est sûr.
Ok, juste les dernières petites questions avant qu'on termine, qui sont assez rapides en général pour avoir un peu le patchwork d'idées de ce que tu te fais de la santé du sport. Comment au quotidien, qu'est-ce que tu fais toi pour ta santé pour être le plus en forme possible? Est-ce que tu prends des compléments, tu fais des étirements, tu m'as dit que tu voyais un ostéo régulièrement aussi, et des kinés, forcément.
Bah, j'ai un préparateur physique, j'ai un kiné, j'ai un ostéopathe, J'ai une marque de compléments alimentaires qui s'appelle Nutrimuscle, qui est une marque de qualité qui me soutient depuis mes débuts au Brave. Donc, c'est mon premier sponsor d'ailleurs financier. Et j'ai un équipementier, j'ai Venom. Et voilà, après, j'ai différents sponsors dont j'ai parlé tout à l'heure. Et au niveau purement de santé, bah, je m'entraîne dur. Je m'entraîne une dizaine de fois par semaine. Et puis, tu rajoutes à ça une séance de kiné et deux séances d'étirement. Et t'as à peu près une semaine type de sportif.
Comment tu vois ta trentaine, quarantaine, tu te vois ici de. Tu vois de faire ça longtemps ou pas trop? Tu te dis que tu vas réussir à tenir ou dans le sens où c'est quand même dangereux physiquement,
Non, mais
ça peut donner des séquelles derrière?
bah, tant que je suis en forme, après, je pense que je vais. Si ma carrière est un succès, je pense qu'avant 40 ans, je serai à la retraite. Mais j'ai commencé très tard. J'ai commencé ça sur le tard. J'ai commencé à plus de 20 ans. Donc, j'ai commencé à 21 ans. Là, j'en ai. Enfin, j'ai commencé le sol. Je suis brésilien à 21, 22 ans. J'ai que 3 ans de MMA dans les pattes, donc je pense que je peux faire ça encore quand même une bonne dizaine d'années, quoi.
Ok. Si tu devais remonter à l'âge de 20 ans, peut-être, donc 6 ans en arrière ou 21, lorsque tu étais dans tes débuts, c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre?
Et ben, s'entraîner, faire des entraînements de qualité avec de l'intensité. En quantité, voilà. Donc, c'est-à-dire que la qualité doit primer sur la quantité, voilà. De la qualité avant la quantité, je dirais ça. C'est-à-dire chercher les bons profs, les bons coachs, les bons sparring partners, faire des entraînements de qualité avant de chercher à faire 10 séances de sparring par semaine et de se blesser, quoi. La qualité avant la quantité, voilà.
Tu fais un peu de muscu, tout ça, tu essaies de gagner du poids ou au contraire,
Bah,
tu essaies
comme
de
je
gagner.
disais, ouais, bah, je te disais, j'ai un préparateur physique et nous, on a des catégories de poids, donc j'essaie de regarder le même poids toute l'année. Hein.
Ouais, t'es pas, de toute façon, tu t'en fous quoi. Parce que enfin, du physique et de l'esthétique et le fait d'avoir les abdos, ceci, cela, c'est pas du tout une prio.
Non, mais après, tu as vu, on a quand même un bon esthétique.
Bah oui.
Parce que, bon, on a un esthétique d'athlète. Après, oui, on n'a pas un esthétique de bodybuilder. On va pas chercher en particulier un abdo ou des fessiers ou des trucs comme ça.
Ok. T'as un livre à me recommander, un truc que t'as lu récemment, ou peut-être un bouquin, alors que ça peut être sur le MMA ou ça peut être dans d'autres domaines, hein, un truc que les gens peuvent lire si ça les intéresse.
Alors c'est un livre de Jack London. Je me rappelle plus le titre du livre. Je crois que c'est pour 1 $ ou je sais pas si t'as accès à Internet là.
J'ai accès à Internet, mais le problème, c'est que comme je suis sur plusieurs logiciels en même temps,
Ah ouais.
je vais éviter d'aller
Bah
truc.
attends,
J'ai peur que
je
ça.
regardais, mais je vais juste couper la caméra. Hop.
Ouais.
Tu
Jack
m'entends?
London, ça me dit quelque chose, hein, pourtant.
Ouais, c'est un Jack London, mais. Il en a écrit plusieurs, alors j'en ai lu deux, mais je me rappelle plus. Je ne vais pas me gourer de nom. C'est. Alors, le nom du livre. Ah ouais,
Je
il en a
fais
écrit.
un petit.
Il en a écrit, il en a écrit un paquet. Hein.
Ouais.
Ah oui, bah c'est lui qui a écrit Croc-Blanc, tu sais.
Ok.
Ouais. Très très bon, Jack London. Et. De te retrouver. Hop.
Petit coucou à Alex, hein, French SAS là que tu connais et qui lui pour le coup ne lisait pas du tout, enfin ne lit pas, ne lit très peu et était resté séché lorsque je lui avais posé
Ouais.
cette question.
Le jeu du ring. Voilà, c'est ça. Le jeu du
Ok.
ring.
C'est sur la boxe ou quoi?
Ouais, c'est l'aventure d'un boxeur. Dans les années 50, quoi.
Ok.
Donc, et franchement, je me suis régalé.
Ok, parfait. Ben, je noterai ça, hein, et puis pour ceux
Et
qui
il
veulent
est
aller
court,
voir.
il est assez court. Il est assez court, je crois qu'il fait même pas 200 pages.
Parfait. On te retrouve et on te soutient. J'aimerais bien, enfin ça serait top si là tous ceux qui ont suivi l'épisode jusque là, qui sont restés avec nous, c'était quand même assez passionnant. Je pense qu'il y en a beaucoup qui seront encore là. Allez soutenir Benoît évidemment sur sa page Instagram. C'est là où tu mets toute ton actu quasiment. Hein. T'as pas de site web particulier.
Alors Benoît Saint. Aussi Benoît Saint-Denis God of War sur Facebook, voilà.
Ok, je mettrai ça. Allez lui écrire un message, n'hésitez pas, envoyez-lui la force, faites-lui un petit vocal. Merci d'être passé sur le podcast, merci d'avoir partagé tout ça, hyper intéressant. Et puis voilà, on va te soutenir, on va essayer de voir ce que tu vas donner en mai. Sans te mettre la pression, mais non, ça va être top. Et que tu fasses une super carrière. Est-ce qu'il y a un dernier truc, un dernier mot que tu voudrais rajouter avant qu'on quitte officiellement?
Non, bah écoute, je te remercie Jérôme pour l'invitation. Je suis content de passer sur Biomécanique et voilà. J'espère que les auditeurs vont se régaler et puis écoute, moi je vais chercher cette victoire. J'espère que tu te régaleras devant la télé alors.
Ouais, c'est sûr. Ouais, je vais essayer de le noter. Je vais me le foutre dans mon planning, mon emploi du temps comme ça. En plus, comme je suis, c'est parce que tu vas aux États-Unis pour combattre ?
Non, pour m'entraîner, ouais, pour m'entraîner.
Ok, et le combat se fera
en mai, je sais pas encore, mais je vais l'annoncer sur Instagram. Je l'annoncerai dès que j'ai la date exacte.
Ok, parfait. Bon, super. On va suivre tout ça. Reste avec moi encore 30 secondes, juste que je coupe et que j'ai le temps de récupérer tout ce que je veux au niveau des fichiers. Laissez une petite note sur Apple Podcast, Spotify. Maintenant, on peut faire les deux, donc n'hésitez pas à la foncer si ça vous a plu, si vous voulez soutenir le podcast. Merci d'avoir été avec moi cette semaine et avec Benoît, encore une fois, pour un épisode du podcast. J'ai été ravi de t'avoir sur l'émission parce que, je m'attendais pas à une réponse aussi vite et je trouve ça vraiment génial. Voilà, je me suis régalé. Inscrivez-vous à la newsletter aussi, hein, faites-vous plaisir, faites-moi plaisir aussi, allez sur le premier lien qu'il y a dans les notes de la description du podcast. Et puis vous pouvez vous inscrire à la newsletter comme ça. Abonnez-vous au podcast, partagez-le. Je le dis pas, faudrait peut-être que je le dise en début d'épisode, comme ça il y aurait peut-être plus de partage. Ça se fait beaucoup, un petit peu moins sur le dernier épisode, mais allez-y sur Instagram, faites des captures, balancez-le, identifiez-moi, identifiez Biomécanique Podcast, identifiez Benoît Saint-Denis sur Instagram pour propager, pour montrer ce que vous écoutez, pour partager un peu aux gens que vous connaissez pas, qui vous connaissent et que vous connaissez. Ça permet de faire grossir l'audience, on monte, ça devient assez intéressant tout ça, et puis on a des invités comme ça maintenant sur le podcast qui ont une certaine notoriété aussi dans d'autres milieux que le fitness et que la santé classique. On est sur du MMA, moi je trouve ça passionnant, donc voilà, portez tout ça en étendard, en partageant, en vous abonnant au podcast, comme ça vous recevez la notification. Et puis on se retrouve lundi prochain, nouvel épisode lundi 8h heure française comme d'habitude. Portez-vous bien d'ici là et puis à bientôt, bye. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux. Merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa. C'est ce qui me permet de mieux ressortir dans les classements. Laissez-moi votre email sur biomecaniquepodcast.com/lettre et je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que la lettre biomécanique une fois par mois où je vous partage mes meilleurs conseils et recommandations. Vous avez écouté le podcast Biomécanique, je suis Jérôme Cazerolle et je vous dis à très bientôt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.